16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être fidèles à Historiquement vôtre, ce périple quotidien à la fois instruit et rieur à travers les siècles. Merci d'être là, j'ai envie de dire, malgré tout. Car en effet, au nom de toute l'équipe, au nom de la station, je vous présente mes excuses pour cet incident survenu hier après-midi, ici même. Oui, beaucoup de réactions. On peut parler de vagues d'effroi suite à ce bruit tétanisant entendu sur notre antenne. Certains ont cru qu'on égorgeait des cochons. D'autres ont avancé l'hypothèse d'une détresse respiratoire d'un membre de l'équipe qui aurait contracté une forme grave de la Covid. Je vous rassure, c'était effectivement juste Stéphane Bern qui tentait d'imiter le cri de Tarzan. Bonjour Stéphane Bern.
Oui.
La France s'interroge, est-ce que vous allez mieux aujourd'hui?
Oui, je suis en pleine forme, mon cher Mathieu.
J'espère.
Ravi de vous retrouver pour deux heures d'histoire décomplexée autour, comme chaque après-midi, de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point commun.
Lequel aujourd'hui?
Aujourd'hui, les Marias, toutes des divas.
Mais c'est fou ça, hein?
Oui.
C'est un hasard ou c'est ce nom qui prédestine?
Bah, c'est vrai qu'on en a choisi trois.
C'est pas faux. Vous voulez dire qu'on a fait une sélection, oui, qu'elles ne sont pas toutes divas?
Et non, mais il y en avait d'autres qui s'appelaient autrement.
Bon, on ne les citera pas.
Oui. La Malibran, Maria Malibran. La Callas, Maria Callas. Et vous avez choisi une vivante, parce que moi je fais les mortes.
Et moi les vivants. Et là, parmi les vivants, un choix s'impose. J'ai pas eu à choisir, c'est évidemment Maria Carré. Je vous ferai une liste de toutes les exigences de Maria Carré. Vous verrez qu'à côté d'elle, même vous êtes simple.
Ah oui. Tiens, à propos, je voulais vous remercier, mon cher Mathieu, parce que la semaine dernière, vous avez dit du mal des Kids United.
Et
je suis heureux de vous annoncer
que vous êtes le parrain.
Que c'est Valentina, 11 ans, de Kids United, qui va représenter la France le 29 novembre à l'Eurovision Junior. C'est grâce à vous.
C'est grâce à moi. Et bien, une fois de plus, on ne va pas gagner l'Eurovision.
Ah,
je plaisante.
Alors, sommaire de cette émission, vous avez vu, elle est là. Elle est incroyable.
Oui, vendredi, elle a l'air en pleine forme.
Oui, mais elle est beaucoup moins épuisée que nous tous. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour messieurs. Alors vous allez nous parler de dames aujourd'hui. Moi je vais vous parler d'un homme, qui a été répudié, congédié par sa femme, mais ça se passe à la fin du 19e, au tournant du 20e siècle, ce qui à l'époque est une chose extrêmement rare. Mmh. Et cet homme, Stéphane le connaît par cœur, c'est le célèbre Boni de Caslan, figure majeure du Paris de la Belle Époque. Il était marié à une riche héritière américaine, Anna Gould.
Elle était belle vue de dot.
Exactement, voilà. Et c'est exactement ça, Stéphane Boni nous a laissé quelques bons mots inoubliables, dont celui-ci, vous verrez là tout à l'heure.
Avec nous également en studio, Stéphane, le Rocco du Douro, l'étalon lusitanien, qui a décidé de nous parler aujourd'hui de l'origine des films porno, même si c'est étrange, j'ai l'impression qu'il avait commencé doucement à nous préparer au sujet dans sa chronique d'hier, souvenez-vous.
On peut, c'est pas complètement dangereux de la mettre dans sa bouche, même si c'est déconseillé de la manger.
Bonjour David Kustelop, comment allez-vous en ce vendredi?
Très bien. Bah oui, mais c'est vrai, on m'a reproché quand même de traiter des sujets austères un petit peu quelquefois. Les paillettes, le béton armé. Et ben j'ai décidé de prendre le contre-pied absolu de ça, et de parler de des origines du film porno.
Et aussi avec nous, la gourmandise, c'est notre péché mignon, avec Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis. Ben oui, moi aussi j'aurais ma diva. Elle ne s'appelait pas Maria, elle s'appelait Nelly, et en plus elle a inspiré un chef cuisinier qui lui a inventer un dessert. Alors messieurs ou messieurs, dames, quand un grand chef vous inventera un dessert, vous reviendrez me voir, je donnerai la recette.
Vous, une fois, vous aviez inventé un dessert pour Nathalie Dessay, mais elle l'avait trouvé dégueulasse.
Non, c'est vrai.
Non, c'était très bon,
mais l'esthétique était pas très esthétique.
On aurait dit un hamburger, alors c'était un dessert.
Il avait traversé Paris en scooter.
Enfin, on dit souvent que notre émission, c'est l'histoire décomplexée, mais c'est surtout l'histoire décomplexante qui vous permet, chez vous, de réaliser que vous êtes finalement aussi bon en histoire que Stéphane Bern. Grâce à notre quiz sans pitié, Bern to be alive, qui fait même danser Stéphane. Mais d'abord, on va se plonger dans notre thème du jour, les amis. C'est Diva nommée Maria, et on commence avec Maria Malibran.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Comme chaque après-midi, trois personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser. Et pourtant, Stéphane, l'impossible rencontre a lieu chaque après-midi dans le studio Coluche. Aujourd'hui, la rencontre de trois divas nommées Maria. La première avait pour nom Malibran.
Et si elle était la première pop star de l'histoire? On la sait riche, adulée, amoureuse et acharnée. Maria Malibran, cantatrice exceptionnelle, est la parfaite incarnation de la diva romantique que le 19e siècle voit émerger. Mais comment s'est donc construit le mythe de l'immense Malibran? Je vous le demande.
Mais c'est ce que vous allez nous raconter aujourd'hui, Stéphane.
Ah bah oui, je suis là pour ça, c'est drôle. Sa naissance d'abord y est pour quelque chose, car la jeune Maria naît en 1808 dans une famille andalouse où l'on brille déjà sous les feux de la rampa. Sa mère, Joaquina Siches, est actrice et chanteuse d'opéra. Quant à son père, il n'est autre que Manuel García, l'un des ténors les plus en vogue de l'époque et qui triomphera bientôt dans Le Barbier de Séville. Alors, au gré des contrats de ses parents, la jeune fille parcourt l'Europe et connaît une enfance avec la scène pour seul pays. La scène.
Oui, j'ai bien compris. Là, vous n'avez pas gâché. Je trouvais que c'était bien formulé, la scène pour seul pays. C'était beau et vous avez.
C'était beau.
C'est comme une blague, il ne faut pas l'expliquer en fait.
C'est vrai.
Oui, c'était beau en soi. Ayez confiance en vous, c'était beau en soi, Stéphane. Laissez-vous
non,
vivre.
Non, c'est vous que j'ai surestimé. À Paris, où Maria a vu le jour, à Naples, à Rome, à Londres, sa vocation pour la musique se fait de plus en plus évidente. Maria excelle au piano, joue de la harpe et de la guitare, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, s'il est un instrument qu'elle apprivoise difficilement, c'est celui qui fera plus tard sa renommée. Oui, car Maria a hérité d'une voix rebelle. Et c'est au prix d'un travail acharné, imposé par un père tyrannique, que Maria parvient à maîtriser sa voix. Après l'Europe, la famille García part à l'assaut de l'Amérique et met le cap sur New York. Marie s'y professionnalise en donnant la réplique à son célèbre père. Là-bas, elle épouse l'homme qui lui donnera son nom et lui fera goûter sa liberté, l'industriel Eugène Malibran. Revenue en France, Maria Malibran connaît une ascension fulgurante. Elle est la nouvelle Coqueluche de Paris. Bientôt, l'Europe entière la découvre. C'est une belle femme aux yeux noirs perçants, aux longs cheveux de la même teinte. Sa voix pénétrante, à la tessiture mezzo-soprano, envoûte le public du théâtre italien qui, plus encore, est conquis par sa grande capacité d'actrice. Maria enchaîne les succès, le plus vif étant sans conteste son interprétation de Desdemone dans l'Othello de Rossini, immortalisée sur une peinture de l'artiste belge Henri de Ken. Celle que tous appellent désormais la Malibran est au fait de sa gloire. Alfred de Musset, Frédéric Chopin, Stendhal ou Georges Sand, les plus grandes figures du mouvement romantique ne tarissent pas d'éloges à son égard. Admirée des élites intellectuelles, la Malibran l'est aussi du public. La cantatrice est vénérée des foules. Les guichets sont pris d'assaut dès qu'une nouvelle représentation est annoncée. Et les billets s'arrachent à prix d'or. Pour peu qu'on ait les moyens, eh bien on veut voir la Malibran. À chaque fin de concert, sa prestation déclenche des tonnerres d'applaudissements à en faire trembler les salles. Chaque fois, la scène disparaît sous un parterre de fleurs et de poèmes lancés par des spectateurs conquis. Un jour, alors qu'elle assure une représentation de la Sonnambula de Bellini à la Scala de Milan, le public demande à Maria Malibran d'effectuer pas moins de 36 rappels.
Ça vous est déjà arrivé, ça, de faire 36 rappels?
Oh non, mes mains, déjà, c'est énorme. On l'a compris, la Malibran est adulée. Elle fait l'objet d'un véritable culte. Et en cette première moitié du 19e siècle, les produits dérivés existent déjà grâce à la lithographie. Eh bien, les admirateurs de la Malibran peuvent donc se procurer une série d'objets à son effigie. On pourra éblouir en offrant le thé dans un service entièrement décoré de portraits de la célèbre diva. Et il y a des fans plus excessifs que d'autres qui n'hésitent pas à collectionner le moindre objet passé entre les mains de la star, des morceaux de sa robe, des habits de scène ou même le verre d'une coupe à glace dans laquelle elle a dégusté un sorbet. Auréolée de succès, la Malibran connaît sa valeur. Elle sait qu'à Paris, à Milan, à Londres, partout où elle passe, les directeurs accepteront de l'engager au meilleur prix. Maria Malibran parvient à négocier des contrats à prix d'or et amasse très vite une fortune personnelle. Prise dans le tourbillon d'une vie rythmée, la Malibran cultive de petits rituels bien à elle que certains jugeront extravagants. Son petit déjeuner favori est par exemple composé de quelques huîtres accompagnées de Porto, mélange qui, dit-elle, est excellent pour sa voix. Il n'est pas rare de voir la Malibran arriver aux répétitions à dos de cheval, puisqu'elle pratique l'équitation chaque matin. Et pour lutter contre le trac qui l'envahit toujours avant de monter sur scène, Maria a une astuce, elle ingurgite un petit verre d'alcool.
Elle n'est pas la seule, j'en connais d'autres qui font ça.
Oui, c'est vrai.
Ouais, vous en connaissez beaucoup dans le showbiz. Oui, oui.
Ah, vraiment, vous êtes drôle de fréquentation. Maria Malibran est dotée d'un immense talent et d'une détermination sans faille. Elle jouit d'une renommée internationale et croule sous la fortune. Pourtant, une légère ombre vient ternir le prestigieux tableau de cette diva hors pair. Car Maria n'a jamais connu les vertiges de l'amour. Malibran, le nom qu'elle porte et que le monde célèbre, est bien celui de l'homme qu'elle a épousé. Mais Maria n'a jamais vraiment aimé Eugène. 30 ans et un océan la séparent de ce lointain mari qui vit à New York. De l'autre côté de l'Atlantique, nombreux sont les soupirants tombés sous le charme de la diva, mais aucun ne parvient à éveiller les ardeurs de la belle. Aucun ? Oh, sauf un. C'est Charles-Auguste de Berriot, le jeune violoniste belge dont elle tombe vite amoureuse. La passion est réciproque et les deux prodiges ne se quittent plus. Mais cette relation adultère fait jaser le tout Paris, qui se délecte de ragots. Non seulement Maria ose vivre avec un homme tout en étant mariée à un autre, mais en plus on découvre vite qu'elle est enceinte de son amant. La cantatrice est boudée par son public, imprégnée alors de morale catholique. Après des années tumultueuses et l'annulation difficile de son premier mariage, Maria célèbre enfin son union avec Charles.
Enfin, on entre dans une partie rieuse de l'émission, là.
Mathieu, le bonheur est de courte durée.
Oh non.
À peine 6 mois plus tard, la tragédie vient frapper à la porte.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Maria Malibran chantant Rossini, c'était comme Stéphane Bern chantant Annie Cordy, un moment de perfection suspendu dans le temps.
Je voudrais bien, ouais, 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 mais je peux point.
Un jour, on vous racontera le destin de Stéphane Bern et je m'en chargerai personnellement. Oui. Mais pour l'heure.
Quand vous ferez les morts, une fois que je serai plus là, pour vous entendre.
Stéphane, pour l'instant, vous nous racontez le destin de Maria Malibran, la première cantatrice star qui avait le succès, mais à qui il manquait l'amour, qu'elle finit donc par trouver quand même.
Oui, Mathieu, nous sommes en 1836. Maria Malibran, qui a fait annuler son premier mariage, vient d'épouser son grand amour, le violoniste Charles de Berriot. Par un matin de juillet, les mérites cavalières s'élancent dans un galop effréné au cœur d'un parc londonien. Mais Maria Malibran perd le contrôle de son cheval. Elle fait une chute spectaculaire et se cogne violemment la tête. La diva est sonnée, sa tempe saigne abondamment. Son état inquiète les témoins qui la supplient de se reposer, mais la Malibran reste fidèle à elle-même. Qu'importe la gravité de ses blessures, l'incident sera tu et coûte que coûte. Elle assurera tous ses engagements. Pourtant, les jours passent et d'inquiétants symptômes ne cessent de l'accabler. Maria souffre d'intenses maux de tête et multiplie les malaises. Le mal provoqué par sa chute la consume à petit feu, car un caillot de sang qui comprime toujours plus son cerveau s'est formé. Pendant 2 mois, Maria Malibran déploie sur scène toute l'énergie qui lui reste, mais elle ne se fait aucune illusion sur son sort. La Malibran l'a compris, la mort viendra bientôt l'emporter. Le 14 septembre 1836, c'est le concert de trop. À Manchester, le public est conquis, alors comme toujours, il en redemande. Maria fait comprendre au chef d'orchestre qu'un rappel la tuera. Mais face à l'enthousiasme général, la grande Malibran est prête à mourir sur scène. Elle donne aux 3000 spectateurs qui peuplent la salle ce qu'ils attendent, avant de tristement s'écrouler en coulisses, une fois le rideau tombé. Malgré sa ténacité, Maria Malibran ne remontera plus jamais sur scène. Après 9 jours d'agonie, la première grande diva de l'histoire s'éteint dans une chambre d'hôtel et meurt en pleine gloire. La grande tragédienne n'est plus. Maria Malibran n'avait que 28 ans. Des funérailles grandioses lui sont organisées par 2 fois, en Angleterre puis en Belgique. Les badauds émus se pressent pour rendre un ultime hommage à la grande Malibran. Sur le mausolée où la diva repose, on fit graver ces mots de Lamartine. Beauté, génie, amour furent son nom de femme, écrit dans son regard, dans son cœur, dans sa voix. Sous 3 formes au ciel appartenait cette âme. Pleurez, terre, et vous, cieux, accueillez-la 3 fois.
Europe 1. Historiquement vôtre.
On vous a donné le moral, c'est vraiment la rampe de Lance Boyle pour le week-end cette émission. Là, on est, mais alors il y a une ambiance de dingue dans le studio. Hein. On a soif de vie, on a envie de partir la vendredi soir, on a envie de faire la fête.
Mais c'est
alors,
beau,
c'est magnifique.
C'est émouvant ce que je vous ai raconté,
c'est
non?
C'est très émouvant, surtout que vous nous l'avez très bien raconté. Surtout qu'au début du récit, il y avait un peu des prises d'accent borderline. Et vers la fin, c'était beaucoup plus sérieux.
Lyriques à la fin.
Oui, des accents lyriques, exactement. Vous avez basculé, Stéphane. Alors pour continuer à parler du destin exceptionnel de la Malibran, justement, nous sommes avec la grande spécialiste de musique classique et d'opéra, Ève Ruggieri. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Ève. Alors, vous
bonjour
avez,
Stéphane.
Vous avez, il faut vous dire, c'est un peu ma maman de cœur, hein, Ève Ruggieri, enfin, ou ma grande sœur, disons, vu l'âge.
Plutôt maman.
Plutôt grande sœur. Essayez d'être chic avec nos invités, Stéphane, ce serait quand même un minimum.
Oui, on va essayer de pas les fâcher. Surtout qu'on a la chance d'avoir une immense, une autre star qui est Ève Ruggieri. Vous avez longtemps animé Musique au cœur sur France 2. Musique au cœur, c'est aussi un festival d'art lyrique que vous organisez chaque été à Antibes. Maria Malibran y a forcément eu sa place. Pourquoi est-ce que la Malibran vous touche particulièrement, Ève ? C'est sa vie romanesque qui continue de nous fasciner aujourd'hui ?
Oui, peut-être aussi parce que j'aime beaucoup Cécilia Bartoli et que Cécilia est devenue follement éprise de Maria Malibran au point d'acheter, alors moi j'appelle ça un camion, ce qui la scandalise complètement, un musée roulant, dit-elle, ça revient au même, dans lequel elle a mis tout ce qu'elle a collectionné, partitions, robes, éventails, parfums, tasses de thé, tout ce que vous voulez. Et elle a fait le tour de France, allant dans toutes les villes pour que les gens découvrent Maria Malibran.
C'est vrai que Cécilia Bartoli l'a ressuscitée d'une certaine manière.
C'est exactement.
Avec un disque hommage.
Actuellement, c'est la plus grande cantatrice dans cette sorte-là. C'est une soprano coloratour. Elle est mezzo-soprano, Cécilia Bartoli.
Il y a des tasses de thé à l'effigie de la Malibran, il n'y en a pas encore à l'effigie de Cécilia Bartoli.
Mais quand vous allez à Salzbourg, où elle fait son festival d'hiver, Cécilia, vous avez des photos d'elle partout. C'est-à-dire sur des petits fanions, sur des trucs comme ça, sur des boîtes de chocolat.
On va continuer à parler des divas qui s'appellent toutes Maria. On en a une autre aujourd'hui dans le studio qui s'appelle Ève. Et justement, on va parler avec Ève
Ruggieri. En fait, je m'appelle Ève-Marie.
Ah ben voilà,
c'est pour vous rentrer dans les clous.
Voilà, ouf, donc je peux rester.
On va parler de la Malibran, en particulier avec Ève Ruggieri sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
vôtre. Ça discute entre Stéphane et Ève Ruggieri, notre invité hors antenne. Ils ont mille choses à se dire,
ces deux amoureux d'art lyrique. Vous disiez que ça manquait un peu de gaieté. Tout à l'heure, on parlait vue de dot. Très belle vue de dot. En fait, c'est son père qui avait la fortune de tous les chemins de fer en Amérique. Il avait un sale rival. Il l'a provoqué en duel. À part que c'était un duel à la locomotive. Et ils sont mis chacun dans une... Si ? C'est véridique. Chacun dans une locomotive, une seule voix. On a lancé la vapeur et de l'horrible enchevêtrement de ferraille, comme on peut lire en général dans les journaux. On n'en a retrouvé qu'un de vivant, c'était le père de la femme de Bonnie de Castellane.
Ils auraient pu mourir tous les deux, surtout ce genre de duel.
Oui, mais bon, c'est très américain.
Vous savez, il faut un peu de chance pour survivre.
Effectivement, merci Ève, parce que ça nous a bien donné la pêche, cette idée de... Et peut-être des idées, qui sait, à certains de nos auditeurs. On parle de Maria Malibran, cette fascinante diva, la première cantatrice star de l'histoire. Est-ce que finalement, il y a une trace sonore qui existe de sa voix ou pas du tout ? Ça a été perdu. Et ça constitue peut-être
hélas,
le mythe.
Non. Hélas,
ça participe
non.
du mythe. Le fait
ça qu'on... participe du mythe. Mais vous savez que pour Maria Callas, par exemple, on a très peu de choses. Parce qu'elle détestait la télévision. Oui. On l'a piégée en lui disant, un chef opérateur du son lui a dit, mais c'est pas de la télévision, c'est de la vidéo. Elle a dit, ah bon, dans ce cas-là, d'accord. Et en fait, c'est comme ça qu'on a le deuxième acte de Tosca entièrement filmé.
Je crois que Stéphane vient d'être Maria Callas, c'était cruche. Peut-être vous pouvez développer, peut-être devant Ève Ruggieri.
Mais c'est pas une spécialiste.
Très bien, ok, c'est noté.
Mais non, mais on peut plaisanter. Ah bon. On essaie de mettre de la bonne humeur, Mathieu. Ne soyez pas rabat-joie comme ça, un peu pisse vinaigre de temps en temps. Alors, au décès brutal, pardon de revenir sur des sujets brûlants, la mort de la Malibran, tous vont la pleurer. Le public, mais aussi les artistes de l'époque, Musset, Lamartine, Balzac, Mérimée, Rossini. C'est vrai qu'elle était adulée de tous. Et vous ne croyez pas que sa mort tragique, si jeune comme ça, ça participe du mythe?
Oui, mais je pense que, vous savez, on oublie toujours que le siècle, le 19e siècle, était totalement romantique. Donc, on se suicidait, on s'écrivait des lettres d'amour qui faisaient des kilomètres, etc. Et elle était vraiment dans ce milieu, avec, vous le disiez d'ailleurs, George Sand, sa sœur avait pris des leçons de piano avec Franz Liszt. Tout ça se rencontrait tout le temps, et il y avait des grands éclats, comme ça, passionnés. Et je pense que, du coup, l'entreprise volontairement a suivi ça. C'est-à-dire qu'on est resté sur ce grand flot de larmes. Quand on applaudissait, c'était debout, en jetant des fleurs, des pluies de fleurs sur elle. Et on a continué à lui jeter des fleurs, mais sur son cercueil. Pardon, c'est pas très drôle.
Wow. Une petite musique un petit
c'est
peu funky.
C'était pour vous faire plaisir.
Oui, c'est cadeau.
Cela dit, elle a été formée...
À coups de gifle.
À coups de gifle par son père.
Qui était un monstre.
Un monstre.
Je ne sais plus quel compositeur disait, quand on passe à Paris sous les fenêtres de Marie-Amalie Brand, on sait qu'elle travaille avec son père parce qu'il y a des hurlements de douleur qui ponctuent les notes. Et c'est vrai qu'il les battait. Mais quand elle va se marier pour la première fois, elle se marie avec un coureur de dot qui est vraiment un type pas intéressant, mais pour échapper à son père. Et puis elle va fuir avec lui. C'était le seul moyen de quitter les États-Unis sans être poursuivie par la police.
Stéphane a dit dans son récit que la voix n'était pas son instrument, si j'ose dire, au départ, elle a dû beaucoup travailler cette voix.
Elle était très douée pour plusieurs instruments de musique, mais cette voix qui était magnifique, c'était ce qu'on appelle en termes de métier une soprano coloratura.
C'est très aigu.
Ce qui veut dire ce sont celles qui attrapent des notes très aiguës, mais aussi qui ont l'art de colorer un peu le son. Coloratura, c'est ça que ça veut dire. Et qui sont férues en technique, c'est-à-dire qu'elle avait une technique d'acier trempé comme Bartoli, c'est exactement la même technique qui fait qu'on reste la bouche ouverte devant ce qu'elles arrivent à faire.
Au fond, c'est Sylvia Bartoli qui est l'héritière de la Malibran aujourd'hui.
Absolument.
Mais on ne pouvait pas en parler parce qu'elle s'appelle Cecilia et pas Maria.
Ça ne rentrait pas dans les clous.
Et qui, Dieu merci, est toujours vivante et en pleine forme, comme Maria Carré.
Évidemment, comme Maria Carré, oui, en pleine forme.
En moins ou grande forme.
Oui.
En tout cas, merci Ève, comme toujours. Je rappelle le dictionnaire amoureux de Mozart, chez Plon, dont vous en parlez ici même. Et d'ailleurs, notre Malibran a un lien direct avec Mozart, parce qu'elle est la fille de Manuel García, qui était proche de Lorenzo da Ponte.
J'aime bien votre accent espagnol.
Oui, mais je crois que tout le monde adore son accent.
Le librettiste de Mozart.
Absolument,
était...
qui est un abbé coquin.
Un abbé coquin.
Ah, un abbé coquin.
Ah oui, da Ponte.
Ah, ça me plaît, ça.
Ben oui, je vous le disais exprès, d'ailleurs, pour amener un sourire.
Vous m'avez bien cerné, Evrogeri. Et je vous propose de rester avec nous, Evrogeri, si ça vous intéresse, puisque vous avez cité tout à l'heure Bonnie de Castellane.
Oui.
Et je crois que c'est le thème de la chronique qui suit avec Clémentine Portier-Kaltenbach. Peut-être
formidable.
Que vous voulez peut-être rester là pour vérifier ces dires.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
L'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Elle, pourtant, elle a toutes les raisons pour. Mais ce qu'elle préfère, c'est nous plonger dans l'histoire et souvent sans maillot, on peut le dire.
C'est
Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez la vie d'un dandy. Bonnie de Castellane,
c'est un homme que vous connaissez bien, Stéphane. C'était un homme munificent, extrêmement séduisant. Alors, il s'appelait en fait Marie-Ernest Paul Boniface. Ça s'écrit Castellane.
Ah oui,
mais...
moi j'ai dit Castellane bêtement.
Et non, ça se prononce Castellane. Alors si vous dites Castellane, là vous passez pour un.
Vous auriez pu me le dire avant l'émission.
C'est comme les Breuils.
J'en ai connu une. Mais
vous avez connu une intimement.
D'accord. Bon, écoutez.
Messieurs,
restez polis. Alors, Bonnie était né en 1867 et c'était un très bel homme loti d'une ribambelle d'aïeux à sang bleu, un petit neveu de Talleyrand. Sa mère est descendue du duc d'Épernon, qui était un compagnon d'Henri IV, donc vraiment de la vieille noblesse française. Très beau pédigré, mais pas grand-chose en poche et surtout pas la moindre envie de bosser. Et de l'autre côté, une richissime héritière américaine protestante, Anna Gould, dont le père a fait fortune dans les chemins de fer aux États-Unis. Mais son père était un peu une brute, c'était pas le pédigré Castellane. Alors elle vient en Europe pour s'acheter. Un prince charmant, oui, vraiment, s'acheter, le mot est juste. Et il est vrai que Bonnie, était quand même très, très, très bel homme, très distingué. Il se faisait friser la moustache avec un petit fer fait pour ça.
On aurait dit un dandy.
Et surtout, très sophistiqué. Il se faisait glacer les ongles de pied par un pédicure chinois. Est-ce que vous en faites autant, Stéphane?
Non, j'avoue que non.
Glaçage d'ongles en rose. Alors, c'est joli. Ça sert à quoi? Ça sert à faire bonne impression à ses amants, par exemple. J'en sais rien.
Vous montrez vos pieds, vous
Alors, parfois, dans certaines circonstances de la vie, Stéphane, ça peut arriver. Quand on est dans un lit avec un ami ou une amie, c'est des choses qui arrivent.
En tout cas, alors, indéniablement, Anna Gould, elle était plutôt moche. Elle avait un gros nez, deux énormes yeux noirs, et puis elle était affectée d'une légère claudication. Enfin, pour quelques centaines de millions de dollars, on peut bien passer sur quelques petits défauts. Bien et sûr, alors, oui. Stéphane nous l'a dit tout à l'heure, oui, ça c'est la réflexion qu'aurait eu Bonnie Caslan en la rencontrant.
Elle est belle vue de dot.
Elle est belle vue de dot, exactement. Alors, il se rend à New York.
Il a dit des choses bien
oui,
pires.
Alors, il était vraiment... Il avait beaucoup d'esprit.
À propos d'esprit, quand il a été évincé par son cousin, lorsque sa femme en a eu assez de ses dépenses ahurissantes, donc elle l'a viré, comme vous disiez tout à l'heure, et puis elle s'est remariée avec son cousin. Et donc, le cousin recevait au Palais Rose. Et Bonnie, évidemment, n'était pas invitée. Il y avait une grande soirée d'inauguration. Il est arrivé, il commençait à monter un immense escalier. Et le cousin lui a dit, mais je ne pense pas, monsieur, que vous soyez invité et que nous nous connaissions. Et il lui a dit, mais si, nous avons servi dans le même corps.
Et quand il montrait, ah oui, il faisait visiter le Palais Rose, il montrait sa chambre à coucher et il disait... La chapelle expiatoire. Ouais.
Il l'appelait aussi le revers de la médaille. Alors, donc, il se marie drôle. Quand même. Il l'a épousée en mars 1895 et il s'installe d'abord dans un hôtel particulier de l'avenue Bosquet. Cet hôtel particulier où il parle de sa chambre comme la chapelle des expiatoires. On imagine qu'il devait dire ça sur un ton absolument tragique et consterné. Et c'est vrai qu'ils sont très, très mal assortis. Alors, d'autant qu'elle, elle dépense des sommes folles dans des belles tenues, mais dans lesquelles elle est engoncée, elle est gauche, elle ne les met pas en valeur. Alors on a vraiment l'impression de l'union de la carpe et du lapin. Alors lui, il commence à jeter l'argent de son épouse par les fenêtres, il se fait servir comme un prince du sang, il court les antiquaires, il s'achète des toiles de mer. Mais c'est surtout Bonnie, et ça restera dans l'histoire comme un des hôtes les plus munificents de l'histoire de France. Alors il donne des fêtes absolument sublimes au tir au pigeon et plus tard au fameux Palais Rose dont parlait Ève à l'instant. Alors, on raconte que quand même, quand il a inauguré le Palais Rose, il aurait payé les loyers de tous les paroissiens nécessiteux de son quartier. Donc, c'était ça un peu sa marque de fabrique.
C'était très généreux.
Très généreux. Je suis généreux des autres, mais je pense qu'il aurait pu être simplement un dandy qui claquait pour son propre plaisir. Il était quand même capable d'être généreux. Alors, il y a une fameuse réception au cours de laquelle il fait dérouler 15 km de tapis pour que les invités ne se mouillent pas les pieds.
Bon, ça, c'est le minimum.
Il engage 200 musiciens, 600 valets en livrée. Il fait lâcher des signes sur la pièce d'eau, allumer 80 000 lanternes vénitiennes. Il y a 3 000 invités à cette grande fête. Et puis, il va aussi acheter un yacht, le Valhalla, avec 100 hommes d'équipage. Il achète le château de Grignan, parce qu'il avait appartenu à ses ancêtres. Tout ça aux frais d'Anna Gould, et évidemment, pour le plaisir. Alors, parallèlement, il lui fait quand même 4 enfants en se disant, comme ça, elle va être occupée ailleurs. 3 garçons et une fille, malheureusement, une fille aînée qui meurt en bas âge. Et en effet, ainsi que le disait Ève de Ruggieri à l'instant, en janvier 1906, elle en a ras-le-bol.
Il l'a trompé beaucoup.
Il l'a trompé non seulement il claquait, mais il l'a trompé. Elle décide de s'en séparer. Elle a bien fait de rester protestante parce que du coup, le divorce est plus facile. Et lui, il vient tambouriner avenue Bosquet et on lui ouvre pas. Ça y est, monsieur est congédié. Et ce qui est amusant, c'est du coup, il retourne chez ses parents et met une espèce d'ostentation dans sa gêne. D'abord, il va écrire un livre qui s'appelle « De l'art d'être pauvre », ce qui est quand même un petit peu culotté. Et puis, il s'installe il met un petit lit de fer dans sa chambre de jeune garçon chez ses parents, en montrant ça à ses copains. Ils ont écouté, voyez, là, non, vraiment, maintenant, je n'ai plus un sou. Mais enfin, d'une manière générale, c'est ce Bonnie de Castellan, c'est ça. À la fois, je pense, sa prodigalité et son esprit qui ont fait que cet homme n'était pas purement imbuvable, parce qu'il était un peu comme d'une certaine manière, comme un Talleyrand, c'est-à-dire des hommes qui, par moments, pouvaient être un peu infects, mais qui avaient toujours l'art de s'en servir, s'en sortir par un bon mot. Et ça, les Français aiment beaucoup ça.
Mais oui, il a réussi cette chose incroyable, c'est-à-dire quand il a été quand même considérablement ruiné, et puis interdiction de voir ses enfants qu'il adorait, donc tout ça était cruel. Décorer son appartement à Paris avec des meubles, vous savez, en carton mâché. Oui. Donc tout était faux.
C'est ce qu'il raconte dans L'art d'être
voilà,
pauvre.
Tout était
vraiment très rigolo quand même. Vraiment lire ce livre.
Même les fleurs étaient fausses pour qu'elles durent longtemps. Et tout Paris se battait pour aller dîner chez lui. Oui. C'est-à-dire qu'on n'allait pas au Palais Rose, mais on allait chez Bonnie.
Il était fascinant.
Il était étonnant.
Maria. Mais en tout cas, c'était formidable qu'il soit dans l'émission grâce à vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. On peut réécouter le jour et même la nuit, vos chroniques dans l'intimité de l'histoire en podcast sur toutes les applis radio.
Quant à vous, Ève Ruggieri, je vous invite maintenant peut-être à nous quitter, car je sais que vous avez beaucoup de tendresse pour Stéphane Bern et aussi beaucoup de respect. Vous imaginez qu'il est très doué en histoire. Or, c'est maintenant le moment du quiz
que on découvre chaque jour
que Stéphane n'est pas si doué que ça.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Apprendre en s'amusant, c'est formidable. Mais apprendre tout en humiliant un collègue, c'est, admettons-le, encore plus gratifiant. C'est pourquoi Clémentine Portier-Caltabac provoque Stéphane Bern en duel. Vous avez de la chance, c'est pas un duel ferroviaire, hein, train contre train. C'est simplement des questions. C'est Bern to be alive. Et la première question est pour vous, Stéphane. Sous l'Empire romain, il fallait être né à Rome pour accéder aux plus hautes fonctions. Vrai ou faux?
Oui, bien sûr.
Essayez de réfléchir, Stéphane.
Mais non, je ne peux pas, vous le savez bien.
Sous l'Empire romain, il fallait être né à Rome pour accéder aux plus hautes fonctions. Vrai ou faux? Essayez de réfléchir qui a été empereur, par exemple.
Non, pas du tout, puisqu'il y a eu un
empereur. Non, mais je plaisante, mais par exemple.
Il y a eu Avitius, il y a eu un empereur auvergnat. Donc, il fallait
la réponse?
C'est non.
C'est faux.
C'est faux.
Vous avez gagné.
Réponse de Stéphane Bern. Oh Stéphane, quelle culture. Il fallait être citoyen romain, mais pas forcément naître à Rome.
Voilà, c'est ça. Ainsi, citoyen romain.
Exactement, et ça pouvait être à l'autre bout de l'Empire. Oui. Ainsi, Septime Sévère a été empereur de 193 à 211, or il est né en actuelle Libye. Question numéro 2, pour vous Clémentine Portier-Kaltenbach. Le yo-yo est-il une invention grecque? Vrai ou faux?
Alors, est-ce que le yo-yo... Je sais que sous la Révolution, on appelait ça le... Les migrettes ou les migrants, vous savez, parce qu'ils venaient, ils repartaient, comme ça on y jouait beaucoup. Est-ce qu'on a pu inventer le yo-yo en Grèce, au beau? Est-ce qu'il y avait de la ficelle? Oui. Est-ce qu'on peut... Oui, bon.
Est-ce qu'il y avait le goût du jeu?
Est-ce que les Grecs ont inventé le yo-yo? Ça
ne s'appelait
sans doute pas le yo-yo.
Un jeu d'ailleurs. Parce qu'ils ont les comboloi. Tu vois ce que c'est, Clémentine, les comboloi avec les graines, enfin
Je sens, chers auditeurs, que nous partons très loin là.
Moi, je vois pas.
Ce sont des chapelets en fait, comme des chapelets, et ils jouent tout le temps. Les Grecs se déstressent avec ça.
Ah si, je vois.
J'en ai un dans la poche.
Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous foutez avec ce truc là?
C'est oui, avec l'aide de Stéphane.
Mais vous n'avez pas de chapelet sur vous?
Je n'ai pas de chapelet sur moi, Stéphane. Alors, le yo-yo...
Repentez-vous, Mathieu Noël.
Une invention
grecque.
Allez,
je réponds oui.
Ou elle répond oui, écoutons la réponse.
Vous avez gagné.
Que
Stéphane.
Des gagnants aujourd'hui dans le quiz. Les premiers dessins de yo-yo ont été observés sur des vases datant de 500 ans avant Jésus-Christ. Puis, le yo-yo a complètement disparu pour réapparaître au XVIIIe siècle en Angleterre. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Vous voyez le chanteur Mika?
Oui, je vois.
Vous voyez les meubles Ikea?
Ah oui, je vois pas le rapport.
Eh bien, depuis 1800, à Madagascar, il existe un peuple appelé les Mikea. Vrai ou faux?
Je suis allé à Madagascar.
Et où n'êtes-vous pas allé?
Voir le peuple malgache.
Qui vous a adoré d'ailleurs.
Pas une petite miquette qui vous a remis un bouquet de fleurs?
D'où l'expression avoir les miquettes.
J'ai surtout souvenir des Lémuriens. Les Lémuriens sont comme les canards, ils n'ont pas de sphincter.
Donc ils ne sont pas comme les mammouths non plus.
Mais Stéphane, mais comment on peut partir si loin par rapport à une question aussi simple? La question était...
Il y a deux minutes, vous me reprochiez d'être terriblement austère.
Alors vous êtes bien rattrapé. Maintenant, vous devenez un peu austère, équilibrons.
Écoutez, je crois, oui.
Vous dites oui.
Oui, je dis oui.
Soyons fous. Vous avez gagné.
Bon, je suis déstabilisé par votre talent aujourd'hui, tous les deux. Effectivement, bonne réponse. Il serait aujourd'hui 1500, mais personne ne peut donner un chiffre exact ni prouver qu'ils existent encore. Ce sont des chasseurs-cueilleurs vivant dans la forêt au sud-ouest du pays.
Intéressant comme question. Merci beaucoup.
Très intéressant. Hein. Et heureusement, on en a appris un peu plus sur l'anatomie des lémuriens. Question numéro 4.
On se souviendra des lémuriens, mais pas des miquettes. Hein,
attention, tout se joue là. Le plus court verset de la Bible contient trois mots. Vrai ou faux? On va voir si vous l'avez bien lu.
Je pense, oui. Au commencement...
Ah, si vous devez tous les faire, on va pas...
Pour moi, c'est plutôt 4. Si ça se trouve, il va y avoir une arnaque comme ça. Je vais dire oui, c'est 3. En fait, ça va être 4.
Dites-moi la réponse que vous voulez.
Je dis oui.
Vous avez perdu.
Aïe. Il y avait peut-être une arnaque. Deux mots, le verset le plus court. Vous pourrez dire dorénavant que vous connaissez par cœur un verset de la Bible. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, verset 33. Jésus pleura.
Ah!
Deux mots, vous avez donc perdu. Mais C'est Stéphane qui remporte le quiz. Stéphane, ça va à l'encontre de toutes les statistiques.
Non,
vous remportez le quiz de Culture Générale.
Les auditeurs d'Europe 1 savent très bien
que savent-ils
que, d'abord, un, que votre quiz n'est pas un quiz historique, et deux, qu'il m'est arrivé de gagner ces dernières semaines.
Arrivés. Bien sûr, c'est vrai. Et puis, pour ma part, je préfère perdre sur Jean, dans les évangiles de Jean, que gagner avec le sphincter des Lémuriens à Madagascar. Et sur ce, je me retire.
Clémentine Portier-Gatabac se retire. Bravo Stéphane.
(rire) 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous avez envie de vous détendre en rentrant du boulot ?
Oh oui !
Mais vous avez également envie d'apprendre l'histoire et d'épater vos proches ?
Oh oui !
Ou simplement, vous avez envie de vous cultiver ?
Moi perso, c'est pour épater mes proches. Mais en tout cas, on est au bon endroit, pas vrai Stéphane ?
Absolument Mathieu ! Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on fait se rencontrer trois grandes figures de l'histoire qui avaient toutes un point commun. Aujourd'hui, celui d'être toutes les trois des divas. Et en plus, cerise sur le cake, cherry on the cake, de s'appeler Maria.
Oui Stéphane, vous nous avez admirablement décrit le destin ô combien tragique de Maria Malibran, la première cantatrice star. Vous allez à présent nous parler de celle qui a fasciné la planète entière. On va évidemment évoquer le destin de Maria Callas.
Et quant à vous Mathieu, c'est une diva à tous les sens du terme dont vous allez nous parler, mais bien vivante celle-là.
Alors j'ai longuement hésité dans les vivants avec Adrien Rabiot, le footballeur qui ne conçoit pas qu'on ne puisse pas l'appeler en équipe de France, mais finalement j'ai tranché en faveur de Maria Carré.
Oui, enfin en même temps, c'est notre thème du jour, les Marias toutes des divas.
Ah oui.
Rabiot s'appelant Adrien, ça marchait moins.
Ça fonctionnait pas, c'est vrai.
Eux ont mieux bossé l'émission que vous, en tout cas. Il faut l'espérer. Ce sont nos chroniqueurs qui sont là. Alors, avec nous, David Keschlop.
Oui, tout à fait.
Et pas une fois, vous lui direz, il y a du progrès. Non, il n'y a pas de progrès.
Non, je pense qu'il y a même on est revenu un peu en arrière.
Oh non, oui, non, c'est vrai qu'il y avait un côté bouilli. Hein.
Oui, il y avait un petit côté bouilli.
David Castello-Lopez.
Voilà, non mais c'est pas si mal, c'est pas si mal, on va pas se formaliser.
Et en même temps, vous répondez quand on dit
votre... Tout à fait. Mais vous ferez « Hey », je serai là aussi.
Alors, quel est votre thème aujourd'hui, David ?
Eh bien, j'ai décidé de m'écarter un petit peu des thèmes obscurs qui me sont chers quelquefois, comme le béton armé, ou les pailles coudées, ou la pâte à modeler, et je vais parler de l'origine des films pornos. Ça, au moins, je pense que ça intéresse tout le monde.
On va parler de cul. Ça a un rapport avec le béton armé, quand même.
En fait, dans une certaine limite, très bien.
Tu sais quelles sont les pratiques d'Olivier Pouls ?
Enfin, bon. Et avec nous, Olivier Pouls pour un dessert, mais d'une cantatrice, d'une cantatrice.
On parle de diva, je vais vous faire chanter de plaisir, je l'espère, avec un dessert inventé pour une célèbre cantatrice, Nelly Melba. Je vous raconterai l'histoire et puis je vous en proposerai une petite adaptation dédiée à vous, les amis.
Ah, volontiers.
Car vous êtes un peu nos divas.
Beaucoup de promesses, ne nous faites pas faux bon.
Non,
c'est l'expression,
là,
c'est l'expression faire faux bon que nous allons découvrir en fin d'émission avec Stéphane, le maître des mots. Qui nous explique tous les jours l'origine d'un mot, justement, Stéphane.
Ou d'une expression.
Ou d'une expression comme aujourd'hui, faire faux bon. Mais honneur aux dames, Stéphane, on ouvre cette deuxième heure dédiée à l'art lyrique, soit au choix par un contre-hut que vous nous sortiriez comme ça au débeauté, soit par le portrait de Maria Callas. Qu'est-ce que vous préférez ?
Le portrait de Maria Callas.
Vendu.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Elles avaient du coffre, mais aussi un sacré tempérament. Historiquement vôtre rend hommage aujourd'hui à ces divas qui s'appelaient Maria. Et à la plus célèbre des Maria divas, Maria Callas, par Stéphane Bern. C'est tout de suite.
Elle est effectivement la plus célèbre cantatrice que le XXe siècle ait connue. Interprète hors pair, immense tragédienne, Maria Callas incarne la diva dans toute sa splendeur. La Bible de l'opéra, comme l'avait surnommé le compositeur américain Leonard Bernstein, car elle pouvait tout chanter, de Bellini à Verdi, en passant par Bizet, Rossini, Beethoven, Puccini. Née à New York, formée à Athènes, à 10 ans déjà, la jeune Cecilia Sofia Anna Maria Kalogeropoulos.
Oui, non, là, je ne vous contredis pas, parce que je n'ai aucune idée de comment on pourrait dire ça, donc je vous laisse la responsabilité.
Petite fille ronde et myope, fredonnait déjà des airs d'opéra italiens. Elle a pourtant mis du temps à convaincre à ses débuts. Maria essuie plusieurs échecs aux États-Unis avant d'embarquer pour l'Italie, où là, sa carrière décolle. Maria Callas arrive à Vérone en 1947. Elle a 24 ans et fait une rencontre décisive. Giovanni Battista Meneghini, un grand amateur d'opéra qui est ébloui par la voix d'or de Maria et n'a plus qu'une idée en tête, en faire une star adulée. Alors l'industriel de la briqueterie se transforme en impresario, manager, confident et forcément... Ah. Même si 27 années les séparent, la chanteuse et lui, ils se transforment aussi en mari. Tant qu'à faire. Et l'épouse dans l'ombre d'une chapelle véronaise. C'est romantique, non ?
C'est magnifique.
À force de détermination, le couple parvient à porter la cantatrice au sommet de son art. Maria Callas intègre enfin le temple mondial de l'art lyrique, la Scala de Milan. Elle se mue en grande tragédienne et offre des prestations remarquées qui l'inscrivent dans la légende. Maria Callas est notamment Amina dans la Sonnambula, Anna Bolène dans l'opéra du même nom ou encore Violetta dans la Traviata. Sur scène, à Londres, à New York, à Mexico, à Paris, à Chicago ou à Berlin, partout, les applaudissements fusent et les cachets flambent. Maria Callas se produit devant les plus grands, Harry Truman, John Kennedy, Juan Perón, jusqu'à la reine Elisabeth II. L'ascension fulgurante de la Callas s'accompagne d'une impressionnante transformation physique, car au début de sa carrière, je vous l'ai dit, le poids de la diva dépasse le quintal. Et sa célébrité la livre en pâture à une presse et un public, il faut bien le dire, parfois cruel. Un jour, elle reçoit sur scène une botte de radis qu'elle prend pour un bouquet de fleurs à cause de sa myopie. Alors, Maria Callas, pourtant friande de pâtisserie et de bon vin, s'astreint un régime strict et boude son assiette. Après quelques mois, le public voit apparaître une déesse à la silhouette svelte, aux cheveux noirs de jais et au regard immense surligné de noir. La diva Callas n'a plus rien à envier aux stars hollywoodiennes et leur taille de guêpe. Son sourire rayonne sur les innombrables photographies publiées dans les gazettes. Et cette image de marque, il faut bien la soigner. Hors de question pour la diva d'apparaître en public avec une robe qu'elle a déjà portée. Les couturiers se battent pour habiller la divine Maria Callas, qui scintille de joyaux et fait crépiter les flashs à chacune de ses apparitions. La diva... devenue multimillionnaire, n'en serait pas une si elle ne s'était pas rendue coupable de quelques petits caprices de starlette qui permettent à certains titres de presse de dresser le portrait d'une artiste excessive et colérique. On s'amuse de sa rivalité supposée avec la cantatrice Renata Tebaldi. On moque son perfectionnisme quand elle refuse de jouer aux côtés de partenaires jugés trop médiocres pour elle. Ou on exulte enfin quand sa mère se répand dans les journaux en accusant sa richissime fille de la laisser mourir de faim. D'autres événements bien malheureux offrent du pain béni aux détracteurs de la Grande Callas, comme ce soir de janvier 1958 où elle doit assurer l'ouverture de la saison de l'Opéra de Rome en interprétant Norma, l'œuvre la plus connue de Bellini.
C'est magnifique, Stéphane. Qu'est-ce qui se passe ?
Le public est venu nombreux. 3000 personnes s'engouffrent dans la salle, dont le président italien lui-même. Mais soudain, en pleine représentation, la Callas quitte la scène. Elle a perdu sa voix. Depuis quelque temps, des faiblesses vocales accablent la chanteuse. Cet événement malheureux tourne au véritable scandale. En 1959, loin des tumultes de Rome, Maria Callas fête ses noces d'étain chez Maxime. Cela fait 10 ans qu'elle a épousé Giovanni, l'homme qui a tout sacrifié pour elle et l'a propulsée au rang de star internationale. Mais au cœur de l'été, un séjour passé sur les eaux méditerranéennes va faire chavirer le couple Meneghini-Callas. 2 ans plus tôt, Maria a fait la connaissance de l'armateur grec Aristote Onassis.
Onassis, il est dans tous les bons coups. Oui. Il y a toujours un moment dans la vie d'une femme, d'une star, machin, il y a toujours Onassis qui débarque à un moment.
Je ne sais pas s'il l'était lui-même. Le milliardaire charismatique est une figure incontestable et incontournable de la jet set des années 50. Et entre autres biens luxueux, il possède un fabuleux yacht. Alors à bord du Christina, Onassis se plaît à convier tout ce que le monde compte de gens riches et célèbres, rich and famous, comme on disait à l'époque.
On le dit toujours, Stéphane, il suffit d'être anglais.
Sir Winston Churchill, Elizabeth Taylor et Richard Burton ont ainsi profité des cabines luxueuses de ce palace flottant. Au mois de juillet, c'est au tour de la Callas de monter à bord pour une croisière mémorable. L'embarquement se fait à Monte-Carlo et, alors que le navire a largué les amarres,
Maria se laisse aller à une passion tumultueuse. Elle tombe sous le charme d'Aristote Onassis et très vite, la Callas officialise sa rupture avec Meneghini. Aux côtés d'Onassis, Maria Callas délaisse quelque peu les planches, car l'organe qui l'a rendu célèbre lui fait défaut. Sa voix a perdu de son intensité. Après des années de travail acharné, la diva veut vivre. Alors farniente, mondanité, rythme désormais son quotidien. Mais Maria Callas reste quand même sous les feux des projecteurs, puisqu'elle s'essaye au cinéma et s'illustre dans la Médée du sulfureux Pasolini. Pendant près de 10 ans, la Callas place tous ses espoirs dans l'attente d'une seconde noce avec Onassis. Mais ces noces n'auront jamais lieu. Car en 1968, le grec le plus célèbre du monde passe la bague au doigt d'une autre vedette. Il épouse Jackie, la veuve américaine du président Kennedy assassiné à Dallas 5 ans plus tôt. Maria Callas ne sera pas Madame Onassis. Et jusqu'à la mort d'Aristote en 1975, elle endossera le rôle d'éternelle seconde. Surtout qu'elle a appris le mariage d'Onassis et de Kennedy dans les journaux.
Dans la presse,
ouais. Ah oui, c'est horrible.
La classe.
Un jour de septembre 1977, alors que Maria Callas mène une existence solitaire et recluse dans son appartement parisien de l'avenue Georges Mandel, on la retrouve sans vie. Elle avait dit juste avant « Oh, je ne me sens pas bien ». Et elle meurt. Bah, elle l'avait bien dit, hein, qu'elle n'était pas bien. La Callas avait 53 ans. Les hypothèses autour des circonstances de sa mort vont bon train. Comme toute légende qui se respecte, la diva Callas n'aura jamais cessé d'intriguer.
Europe 1, historiquement vôtre.
On continue de parler de la Callas. Nous sommes avec Jean-Jacques Anine Roussel qui a publié l'ouvrage de référence ultime, on peut le dire, sur la vie et la carrière de la diva du siècle. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour Jean-Jacques Anine Roussel. Alors, on vous laisse vous chauffer la voix et on revient dans un court instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement votre spécial, c'est Diva qui s'appelle toute Maria, continue avec notre invité, l'historien de l'opéra et ténor Jean-Jacques Anine Roussel.
Oui, vous avez consacré plus de 30 ans de votre vie à étudier la Callas et vous avez publié il y a quelques années un magnifique ouvrage de plus de 800 pages sur la vie et la carrière de Maria Callas. Vous avez eu la chance de connaître de près une centaine des grands partenaires de Maria Callas qui vous ont parlé d'elle, vous ont confié des photos, des documents. Si on devait retenir qu'une seule image, une photo qui résume sa carrière, ce serait laquelle ?
Peut-être une me vient à l'esprit. C'est une photographie qui a été prise en 1960 pendant les répétitions de Pagliuzzo à la Scala, où l'on voit Maria Callas embrasser Luchino Visconti, qui devait mettre Pagliuzzo en scène et qui n'a pas pu le faire à cause de problèmes de censure. Mais voilà, une des belles photos de Maria Callas que j'ai en tête.
En quelle année elle atteint son apogée ? On a parlé, Stéphane a rappelé ses problèmes de voix dans la deuxième partie de sa carrière. En quelle année elle atteint son apogée, Maria Callas ?
Pour moi, la plus belle année de Maria Callas, c'est 1952. Parce que c'est l'année où Maria Callas apparaît pour la troisième fois sur la scène du Palacio de Bellas Artes de Mexico. C'est l'année où Callas chante Norma à Londres au Covent Garden. C'est l'année où Callas chante Armida, Omaggio Musicale Fiorentino. Ce sont trois moments magnifiques de sa carrière et je crois qu'on peut dire que c'est l'apogée de sa carrière en 1952.
Mais ce qui est fou quand même, c'est qu'elle a une carrière fulgurante, mais assez brève finalement, de diva. Et pourtant, elle a tellement marqué le XXe siècle.
Oui, elle a une carrière beaucoup plus brève que d'autres de ses contemporaines, mais elle a révolutionné l'opéra. Elle a révolutionné l'opéra.
Oui, parce qu'elle était plus tragédienne d'ailleurs. Elle était actrice au fond. Elle, plus que la Tebaldi, on dit que c'était la perfection de la voix, mais la Callas, elle vibrait, elle était les rôles.
Complètement. au départ, dans les toutes premières années de sa carrière, en 47, 48, 49, Maria Callas avait un peu de difficulté à se mouvoir sur scène. Tous ceux qui l'ont connue à ce moment-là et qui m'en ont parlé m'ont dit qu'elle était gauche. Tandis qu'elle a su, au contact de grands metteurs en scène, peaufiner son jeu et être une actrice véritable.
Et comme vous êtes le spécialiste de la classe, j'avais une question très indiscrète à vous poser. On dit que ses amours tumultueuses avec Aristote Onassis ont été en partie responsables du fait de que sa voix ait perdu de sa superbe et que les dernières années où elle a chanté, elle avait des vrais problèmes, qui étaient à la fois des problèmes psychologiques et puis parce qu'elle travaillait moins, elle s'amusait davantage aussi.
Oui, à partir du moment où Maria Callas a connu Onassis, sa vie privée a pris le pas sur sa carrière artistique. Donc elle avait peut-être moins envie de travailler qu'elle ne l'avait à l'époque où elle vivait avec Giambattista Meneghini. Mais il y a eu aussi des problèmes de santé, puisque dans mon livre, j'ai rappelé que à partir de 1958, certains médecins ont considéré qu'elle souffrait de dermatomyosite, qui était une maladie qui affecte les muscles et cordes vocales, et que cette maladie était à l'origine de son déclin vocal.
D'accord.
De son déclin vocal, mais pas de sa mort. Il y a un mystère ou pas autour de sa mort?
On
a lu des choses, oui.
Oui, il y a un mystère et je n'ai même pas pu le résoudre alors que j'ai rencontré le majordome, la cuisinière, tous les proches. Et je pense que personne, désormais, ne pourra dire dans quelles conditions Maria Callas est morte.
Mais c'est suspect pour vous? Elle serait morte volontairement, involontairement? C'est quoi votre intuition, vous qui avez étudié le sujet?
Soit considérer qu'elle s'est suicidée, soit que, comme elle avait l'habitude depuis 1959 de prendre beaucoup de médicaments, une utilisation abusive a provoqué des effets secondaires. Je pense qu'on ne peut pas dire de quoi elle est morte. On ne peut pas dire. Ça restera un mystère.
En tout cas, elle était très triste de la trahison de Onassis. Vous ne vous rendez pas compte,
Mathieu. Je me rends parfaitement compte. Pourquoi vous pensez que je n'ai pas de cœur?
Si, vous avez du cœur.
Il y a un a priori comme ça sur moi.
Bon, en tout cas, merci Jean-Jacques Anine Roussel d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle votre biographie, votre somme immense. C'est un monument consacré à Maria Callas et publié aux éditions Carpentier. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, on rend hommage aux plus grandes divas de l'histoire. Pour intégrer cette catégorie, il faut avoir soit une voix de diva, soit des caprices de diva. Et il faut s'appeler Maria. Dans votre chronique 99% vrai, vous nous livrez donc, Mathieu, assez logiquement, le portrait de la diva des divas, celle qui réunit toutes ses caractéristiques. Après la Malibran et la Callas, voici donc la Carré.
Oui Stéphane, la Carré, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus qu'un portrait, c'est un tuto pour vous. Son titre, toi aussi, grâce à Maria Carré, deviens une vraie star imbuvable. C'est vrai Stéphane, vos collègues ici présents peuvent en témoigner, vous êtes beaucoup trop sympa avec les gens pour accéder un jour au rang de diva, qui pourtant est à portée de main vu la notoriété que vous avez et vos capacités vocales.
Je voudrais bien,
problème,
mais je peux pas.
Je veux dire, c'est pas votre ego. Vous avez tout à fait conscience de votre valeur. On avait pu le constater la fois où j'avais émis l'hypothèse que vous seriez un jour peut-être fait chevalier des arts et lettres et que vous aviez tout de suite précisé les choses. En 2005, les Daft Punk sont pressentis pour être décorés chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Vous, Stéphane, vous seriez déjà aux 3 rues de Valois, maquillé et coiffé.
Pas la peine, je l'ai déjà.
Stéphane vient de placer finement qu'il était déjà chevalier des arts et des lettres.
Officier.
Officier. Officier. Donc l'ego, clairement, est là.
Non.
Le problème, Stéphane.
Non. Je rectifiais un point historique. C'est tout.
Oui, c'est tout. Bien sûr.
C'est pas une question d'ego.
Donc l'ego, on l'a compris, est là. Le problème, Stéphane, c'est qu'il est étouffé chez vous par ce terrible obstacle à l'arrogance qu'on appelle la politesse. Or, la politesse est aussi utile à la diva que l'allume-cigare au non-fumeur. C'est un sale réflexe, hérité de l'éducation. Même Maria Carré a eu longtemps du mal à s'en départir. Un assistant lui tendait un Coca Light, elle ne pouvait pas s'empêcher de dire merci, voire pire, merci beaucoup. Foutu réflexe qui l'empêchait, dans ses jeunes années de star, à accéder au statut suprême de diva. Aujourd'hui, Maria, je vous rassure, a su totalement éradiquer la notion de politesse. Elle ne parle pas à ses assistants, qui d'ailleurs n'ont pas le droit de lui parler non plus, pour ne pas la troubler dans sa création. Création qui consiste le plus clair du temps à trouver le meilleur filtre pour un selfie. Comment atteindre ce degré presque héroïque de mégalomanie qui choquerait même Kanye West ? La réponse est dans cette autobiographie que devrait bientôt publier Maria Carey, All I Want for Christmas is Me. Règle numéro 1, Stéphane, ne jamais regarder à la dépense. La radinerie est en effet incompatible avec le statut de diva. Quand Maria se déplace pour un concert avec son staff de 63 personnes, comme à Londres l'année dernière, elle réserve toute la première classe d'un Boeing ainsi que tout l'étage du luxueux Dorchester Hotel pour près de 220 000 euros. Et pour se déplacer, elle va quand même pas prendre un Uber. Non, pour 13 000 euros, elle prend le supplément Bentley avec chauffeur. Le soir venu également, c'est pas au Crémant d'Alsace qu'elle festoie, mais au Crystal Roederer à 1300 euros la bouteille. Vous me direz, comme toutes les stars ? Pas vraiment, car pour Maria, le cristal n'est à bonne température que s'il est servi dans des seaux à glace incrustés de diamants. Non. Et au Dorchester, c'est possible, c'est un supplément à 95 000 euros. Vous le voyez Stéphane, impossible d'être près de ses sous quand on aspire au statut de diva. Et de ce côté-là, je vous cache pas qu'avec les garçons, on est inquiet. On a vu votre réaction l'autre jour sur le sucre des chouquettes.
Non mais surtout, la chouquette, c'est bon, c'est délicieux, tout le monde aime
et
ça.
Et c'est peut-être pas si calorique que ça. Il y a beaucoup d'air dans la chouquette finalement.
Quand un peu de sucre.
Il y a du sucre, il y a des boules de sucre.
Et, non, c'est meilleur. Et quand les boules de sucre tombent, est-ce que vous allez les chercher au fond du paquet?
On est obligé. Ah, vous les avez payés. Hein.
Ouais, on n'est pas prêt de voyager en première dans cette équipe. Règle numéro 2, pour devenir aussi diva que Maria Carey, aimer ses chiens plus que ses assistants. Avec Maria, c'est pas 30 millions d'amis, c'est 30 millions pour ses amis. Elle a 8 Jack Russell pour lesquels elle dépense chaque année en moyenne 46 000 dollars. Vous, Stéphane, vous mettez bêtement votre chien sur la banquette arrière. Maria, elle, met à leur disposition des limousines. Et lorsqu'elle est en tournée, eux aussi ont droit à des loges avec des dizaines d'humidificateurs pour préserver leur précieuse voie respiratoire. Je pense peut-être qu'ils vont chanter aussi. Règle numéro 3, savoir s'entourer de gens compétents. Alors quand je vois la maigre utilité d'Olivier et David, je me dis que sur ce plan-là aussi, Stéphane, vous avez beaucoup de travail. Vous croyez que c'est utile de s'entourer d'un type qui connaît l'origine des quenelles au four et d'un portugais à moitié fou qui passe ses journées à éclater du papier bulle ? Non. Maria Carey, elle, ne recrute que les meilleurs et a des postes stratégiques. Dans son staff, les deux positions les plus prestigieuses étant assistant PQ et assistant chewing-gum, le fameux bubble boy dont je vous parlais, chargé de réceptionner les malabars usés de la diva pour les jeter à la poubelle, tâche ingrate, indigne de sa condition. Et puis il y a le PQ boy, le responsable personnel du papier toilette de la diva qui ne saurait essuyer son auguste postérieur avec un Moltonel qui ne serait pas le sien. C'est ce qui s'appelle assurer ses arrières. Alors après, est-ce que PQ boy de Maria Carey est une bonne situation ?
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne
situation. Oui, mais on s'en fout.
Situation.
Le tout, Stéphane, c'est que vous en recrutez un plus vite. Tenez, Castello, ça vous dirait une augmentation ?
Incroyable.
Alors sinon, dans l'organigramme des assistants de Maria Carey, sachez qu'il y a aussi deux postes qui ne requièrent pas de doctorat, backwatcher et frontwalker. Respectivement, l'assistant chargé de marcher derrière elle pour éviter qu'elle tombe et l'assistant chargé de marcher devant elle pour la réceptionner si jamais l'autre assistant a mal fait son job. Perso, je vous conseille Castello derrière pour la vivacité et Pulse devant pour le moelleux du rebond. Règle numéro 4, ne pas hésiter à bitcher sur ses rivaux. Ce que je pense de Madonna, il m'est arrivé d'écouter Madonna quand j'étais au collège, à l'époque où elle était populaire. Stéphane, que pensez-vous de Nagui ?
Sympa.
Vous êtes désespérant de politesse. Règle numéro 5, ne pas hésiter à s'asseoir sur l'éthique. Devinez pour qui a chanté, moyennant 1 million de dollars, notre chère Maria en 2009 pour un réveillon intime aux Caraïbes.
Mais je connais l'histoire, donc...
Ah, vous connaissez l'histoire ?
Oui, c'est Muammar Kadhafi.
Oh, c'est Muammar, effectivement, comme quoi on peut être dictateur et aimer la magie de Noël. Enfin, pour devenir aussi diva que Maria Carey, il faut aussi, règle numéro 6, soigner son côté glamour. Maria est une icône, un fantasme pour toute une génération d'adolescents en quête de repères féminins. Qui, autour de cette table, ne s'est jamais donné du plaisir en caressant tendrement la jaquette de l'album Hero ?
Moi, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 19 ans.
C'est QFD. Vous avez retenu la leçon, Stéphane ? Surtout la règle numéro 1, ne pas regarder à la dépense pour régaler ses collègues. Ce qui serait chic, par exemple, ça serait de nous emmener dîner ce soir.
D'accord, on se fait un kebab.
Oh la vache, ce n'est pas Maria Carey qui veut. Hein. La route est longue, Stéphane. C'était diva.
Bravo, Mathieu, c'était votre récit 99%. Il y a donc 1% de faux.
Oui, juste des trucs sur Castello, sinon c'est vrai. Non, elle a vraiment un backwatcher, un front walker.
Attendez, j'aimerais comprendre parce que je fais la balance des paiements. On voit tout ce que ça coûte d'être Maria Carey. Elle gagne autant.
Elle gagne, mais vous imaginez pas, parce que l'album All I Want for Christmas, alors ça je l'ai pas mis dans le papier, c'est je crois la chanson la plus vendue, c'est devant les Beatles, c'est devant Michael Jackson, c'est la chanson qui a été le plus vendue
de tous les temps.
Elle,
tous les
l'a
temps.
Pas écrite, donc elle
c'est
elle
juste,
touche.
Mais néanmoins je pense qu'elle a dû, elle doit avoir un bon agent, elle a négocié des
royalties.
Des droits, je pense qu'elle a des royalties, elle est immensément riche, elle peut se permettre d'avoir un porteur de PQ, mon rêve absolu.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'émission qui secoue l'histoire.
Ah oui, continue. Avec celui qui ébranle les codes et secoue parfois les nouilles, dont il nous avait raconté la genèse japonaise. Et aujourd'hui, David, vous nous faites découvrir les origines du film porno.
Oui. Faites attention, on m'appelle le formulateur de sous-entendus. Hein, pardon.
Oui, c'est vrai que vous êtes spécialiste.
J'aurais pu vous dire, il n'ébranle pas que les codes.
Ah oui.
Mais je trouve que ça devient libidineux, cette émission.
Oui. C'est vrai que c'est limite, surtout c'est le sujet.
Oui. Non, c'est pas mal. Mathieu, vous et moi, on en a déjà parlé, on est de la même génération.
Ouais,
c'est,
à peu près, oui.
Cette génération à cheval entre le monde analogique et le monde numérique. Et donc la dernière génération à avoir connu cette époque lointaine du porno rare. Du porno qui se mérite qui coûte cher.
Mais c'était plus excitant.
Oui, la dernière génération à avoir connu ces minutes passées devant le kiosque à journaux pour trouver le courage d'aller demander au kiosquier « Bonjour monsieur, je voudrais Penthouse s'il vous plaît, c'est pour mon papa.
» Pardon David, parce que vous êtes peut-être en enchaînement là-dessus, mais juste vous savez que qui m'a acheté mon premier Penthouse ? Je l'embrasse, ma grand-mère.
Mais ça c'est des belles familles, vous voyez.
C'est des familles très ouvertes d'esprit.
Des valeurs qui se transmettent.
Mais après vous étonnez si vous avez une sexualité déviante.
Mais ça c'est vous qui avez fait une interprétation.
On est la dernière génération à savoir que le premier samedi du mois, ça veut dire autre chose que simplement le premier samedi du mois. Et tout ça, bien sûr, ça fait que nécessairement, les choses porno qu'on a vues à l'adolescence, elles nous ont marquées profondément.
Oh oui.
J'aime bien vous inclure dans mes affirmations comme ça.
Mais vous avez raison de m'inclure.
J'espère que ça me dérange pas. Non, mais vous vous souvenez de Dragixa ? De Julia Chanel, de Tabata Cash.
Mais Stéphane, vous n'avez pas connu tout ça ?
Mais non, c'était un peu plus tard pour vous.
Qu'est-ce qu'elle sera devenue ?
C'était des stars secrètes, mais c'était des stars quand même. Mais aujourd'hui, des stars porno de cette envergure, il n'y en a plus vraiment, parce qu'on n'a plus besoin d'elles. On tape trois mots en anglais dans une barre de recherche et on vous propose 5000 vidéos qui correspondent exactement à votre déviance ou à votre absence de déviance, je ne suis pas sectaire. Olivier, vous me disiez l'autre jour que vos mots-clés porno à vous, c'était mayonnaise et ambiguïté. C'est sûr que vous trouvez quelque chose qui vous convient. Mathieu, vous m'avez l'air assez branché sexualité de groupe. Il y a plein de trucs. Et Stéphane, je suis sûr que si vous tapez patrimoine XXX, vous allez trouver des tombereaux de choses tout à fait à votre goût. Je sais pas, par exemple, une scène où une mère de famille essaye de convaincre un inspecteur des impôts de l'exonérer de l'ISF. Monsieur l'inspecteur, vous savez, ma collection de Chagall a été largement surévaluée. Et j'ai ici une documentation précise susceptible de l'attester.
Ah,
vous voyez que ça fait de l'effet quand même.
Ça fait beaucoup d'effet, mais ça nous dit pas où sont les origines du porno.
Tout à fait, Olivier. Tout ça, ça nous dit pas, effectivement, Mathieu. Quel a été le premier film porno de l'histoire ? Bon, vous le savez, le cinéma, au sens où on l'entend aujourd'hui, ça date de 1895. Et vous imaginez bien qu'il ne s'est pas passé longtemps avant qu'un type se dise « Tiens, si je filmais des gens à poil ». Et donc, le premier film érotique connu, il date de 1896.
Ah oui,
ça n'a pas traîné. C'est pas encore porno. Ça s'appelle « Le coucher de la mariée ». Il est disponible sur YouTube et on peut le voir. L'histoire est assez simple. C'est l'histoire d'une fille qui enlève ses vêtements. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas vraiment du porno, c'est plutôt de l'érotisme. Le premier film qui montre des gens qui font vraiment leur affaire, j'aime bien utiliser des expressions des années 40 pour parler de ça. Le premier film porno à proprement parler, qui nous soit parvenu et dont on soit sûr de la date, il s'appelle La Bonne Auberge.
Et il date. Le titre est très prometteur. Et visiblement, Olivier le connaît, celui-là.
Et il date de 1908. Je l'ai vu aussi.
Mais quel travail!
Mais oui, je suis journaliste. Et là, c'est hot quand même. C'est l'histoire d'un soldat qui arrive dans une auberge et il y a une employée de l'auberge qui est là et ils s'entendent bien. Voilà, mais tout ça, bien sûr, c'est encore des films clandestins. Et des films porno clandestins, il y en a des centaines et des centaines et des centaines qui ont été faits dans les décennies suivantes. Donc la dernière question que je me suis posée, c'est de quand date le premier film porno pas clandestin, c'est-à-dire le premier film porno sorti en salle, si vous voulez. Eh bien, c'est dur à dire quand même de mettre le doigt sur le premier, mais disons que le premier film célèbre porno, en tout cas, c'est un film de Andy Warhol qui date de 1969 et qui s'appelle tout simplement Fuck. Voilà. Même s'il est plus connu sous le nom de Blue, il est beaucoup plus difficile à trouver un fuck que les autres que dont j'ai parlé avant. Mais je l'ai quand même trouvé, mais malheureusement, je n'ai trouvé qu'une version doublée en allemand.
C'est encore mieux.
Voilà. Ce qui est quand même un petit peu moins bien, parce que c'est moins authentique. Je vous en donne quand même un petit aperçu sonore.
Ich bin ein Zauberer. Ja, weißt du, ich dachte, bevor du mich ganz ausgezogen hast, dachte ich, ich bin lieber selber
schnell aus. Mais qu'est-ce qu'il lui dit ? Vous parlez toutes les langues.
C'est un huis clos de deux heures entre un homme et une femme qui, des fois, ils discutent de la guerre du Vietnam. Enfin, j'ai cru comprendre parce qu'en allemand, il est un peu rouillé. Des fois, ils chahutent comme des ados. Et des
fois, bon bah voilà, quand même le film s'appelle Fuck, donc bon. Enfin bon, tout ça c'est maintenant quand même très très loin, hein, avec Pornhub, avec la mayonnaise, avec l'ISF. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié ce petit voyage aux origines de la
galette. On l'a apprécié, j'ai l'impression que vous aussi, c'est une enquête que vous avez appréciée.
En fait, vous avez trouvé une bonne excuse pour passer toute votre semaine sur Internet.
Mais qu'est-ce que tu fais?
Je travaille,
je
travaille,
chérie, laisse-moi travailler.
Pour la première fois, vous n'avez pas dû effacer l'historique.
Monsieur non expert.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Et l'histoire, ce n'est pas que des dates et des traités, c'est aussi des recettes qui font le patrimoine gourmand de notre beau pays. Les recettes, c'est aussi accessoirement un super moyen de pécho. Regardez Olivier Poul, Stéphane. Il n'était pas le premier en muscu. Question bogossitude, c'est plutôt Alain Delon qu'Alain Delon. Et pourtant...
Il s'est jamais tapé des moches.
Et bien sûr, grâce à ses dons de cordon bleu. Et chaque après-midi, le Casanova du pâté en croûte surgit pour nous raconter l'histoire d'une recette.
Et oui, aujourd'hui, Olivier, vous nous parlez de la pêche melba. Encore une histoire de diva.
Ben oui, exactement. Nous sommes en 1894. Un très grand cuisinier qui est probablement l'un des plus grands cuisiniers de l'histoire, celui qui a fait basculer la cuisine française dans la modernité, il s'appelle Auguste Escoffier. Il est installé à Londres. Et donc, en 1894, il assiste à la représentation de Lohengrin à Covent Garden. Il y a une soprano australienne, Nelly Melba, qui le subjugue. Il est sous le charme. Il rentre chez lui. Il se dit, ça mérite un dessert. Ça mérite une recette. C'est quand même génial.
Oui, d'avoir l'idée, c'est génial.
Et il se dit, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, dans la mise en scène, apparaît un signe. Et c'est ce signe qui va l'inspirer pour créer cette recette.
Un signe, l'animal.
L'animal. Et il va d'ailleurs, la première recette doit évoquer un signe. Il compose deux ailes en sucre et au milieu, il met une coupelle avec de la glace à la vanille, avec des pêches pochées, avec un coulis de framboise, tout surmonté d'un petit peu de chantilly, de quelques amandes effilées. Et en un premier temps, la recette s'appelle d'ailleurs la pêche au signe. Elle va prendre le nom de pêche melba, dédiée à Nelly Melba, quelques années plus tard.
Ah, il n'a pas osé l'appeler pêche melba.
Pas tout de suite. En 1899, elle sera, à l'ouverture du Carlton, elle sera baptisée pêche melba. Alors, vous connaissez mon sens de l'exigence en matière de recettes, et notamment de saisonnalité. Oui. Et donc, je pourrais évidemment vous donner la recette de la pêche melba.
Mais pas l'affaire, parce que c'est plus la saison des pêches,
c'est ça ? Il n'y a pas de pêche, pas trop de coulis de framboise.
On peut trouver des pêches en bois.
Non, pas des pêches en bois,
Stéphane. Oh, les pêches en bois, Stéphane. Oh là là, la catastrophe. Non.
Alors moi, je me suis dit que j'allais créer un dessert pour vous, les amis, qu'on pourrait appeler... Le dessert Noël Bern, quoi, qui serait une façon de revisiter la
vendeur,
pêche melba.
Ça. Vous mettez ça à la carte du Ritz, ouais, à mon avis, les gens se précipitent
exactement
dessus.
Exactement.
Il n'y a pas grand.
L'idée, c'est d'utiliser des produits de saison. Donc, plutôt que de la pêche, on va prendre de la poire.
La poire. Il y a des conférences, des commises, des Williams.
Exactement. Mais plein dans la saison.
Il y a un monde qui connaît tous les mots. C'est après la séquence des mots, Stéphane.
Je connais toutes les poires.
J'adore les poires.
Et on pourrait remplacer... On pourrait remplacer la framboise, le coulis de framboise, pourquoi pas par de la figue. C'est la fin de la saison de la figue, on en trouve.
Figue et poire, ça
figue
fonctionne.
Figue et poire, évidemment.
Vous savez ce qui fonctionne
très bien.
Excusez-moi, je déboule comme ça en plein milieu de votre chronique parce que j'ai mangé un plat exceptionnel l'autre jour qui m'a été servi parce qu'il n'y avait plus ce que je voulais à la carte et donc j'étais obligé de prendre cette entrée qui ne me faisait pas envie du tout. Il y a une association invraisemblable, sardines, je déteste les sardines, sardines et poire. La sardine et la poire fonctionne miraculeusement. Si vous voulez épater quelqu'un pour lui montrer que vous connaissez
cette association... Vous ouvrez une boîte de sardines, vous coupez des bouts de poire et c'est parti.
Non, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, c'était très bon. Fin de la parenthèse.
Bon, je reviens sur ma recette. Ben, on va prendre exactement les mêmes techniques que pour faire une pêche melba, c'est-à-dire qu'on va cuire notre poire dans un sirop. Hein. Le sirop, c'est de l'eau avec du sucre. Il y aura tous les détails de la recette sur europe1.fr, évidemment. On va faire un petit coulis avec nos figues, simplement en les mixant. Si elles sont, elles manquent un tout petit peu de sucre, on peut en rajouter un peu, mais il n'y a même pas besoin. De la glace, évidemment, une chantilly, des amandes effilées. Et vous réalisez donc ce délicieux dessert-là de saison, la poire Noël Bern.
Quelle glace vous prenez ?
Glace vanille. Bonne glace vanille, à la vraie vanille, pas avec des arômes artificiels de vanille, une vraie authentique glace vanille. Et essayez cet accord, poire, glace vanille, et figue.
Sardine.
Ça vous a fait aimer les sardines, de mettre des poires dedans?
Non, parce que je ne mangerais pas des sardines toute seule, mais avec cette association avec les poires, j'ai trouvé ça
c'est bon, vous dites, t'es un portugais, j'aime pas les sardines.
Ah, je suis désolé, David, si je vous ai choqué.
Non, bah, merci Olivier Pouls. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. On vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte, qui reçoit cette semaine Pascal Légitimus de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Oui. Ça va rigoler.
Oui. Je vous pose la question, Stéphane, vous, si patriote, si fier de notre beau pays, laisserez-vous le dernier mot à un Belge? Non, bien sûr, le dernier mot, c'est à vous qu'il revient. L'histoire d'une expression, c'est dans quelques secondes sur Europe 1 aujourd'hui.
Ben, je vais vous faire faux bon.
Restez avec nous.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il avait bercé notre enfance, sensibilisé nos esprits à l'importance de l'orthographe, voire donné aux téléspectateurs les plus assidus l'idée de se flageller avec un Becherel. Maître Capello, des chiffres et des lettres, était notre guide, notre boussole, notre étoile du berger.
Il est mort, paix à son âme. Requiescat in pace.
Aujourd'hui, il est avantageusement remplacé par Stéphane Bern, qui chaque jour vous livre l'histoire d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, c'est une expression.
Oui, faire faux bon, c'est l'expression du jour, Mathieu.
C'est vrai qu'on n'a aucune idée d'où elle peut venir.
Souvenez-vous que quand, après quelques œillades, vous avez réussi à séduire une demoiselle, réussi à décrocher un rendez-vous, puis tout bien réfléchi, vous préférez jouer avec votre console de jeu, vous lui faites finalement faux bon. Vous voyez de quoi je veux parler, Mathieu?
Non, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, Stéphane. Je suis le dernier des margoulins à poser des lapins. D'ailleurs, vous nous expliquerez un jour l'expression « poser un lapin ».
Absolument.
Mais pas tout de suite.
Je ne passerai pas à côté de l'occasion de vous faire plaisir, Mathieu. Mais revenons au faux bon. La formule vient du jeu de paume, encore l'ancêtre du tennis. On s'attend à ce que la balle aille vers la droite, faux rebond, elle va vers la gauche. La personne qui fait faux bond est comme la balle, elle est là où on ne l'attend pas. Au XVIe siècle, période où l'expression apparaît pour la première fois, la signification diverge. On l'utilise pour dire faire banqueroute. Faire faux bond fait référence au bon de paiement qui peut faire défaut en cas de faillite. On disait aussi « jouer un faux bon » à la place du verbe « trahir ». On l'utilisait d'ailleurs pour ces dames qui trompaient leur mari. On disait qu'elles faisaient faux bon à leur honneur, comme si seul l'honneur des dames était en jeu dans ce jeu qui se joue à deux. En Argentine, à la place de faire faux bon, on dit « faire la poire ». Ça vous plaît, Olivier? En Allemagne, quand on ne se rend pas à un rendez-vous, on laisse quelqu'un dans le pic. Et au Brésil, comme au Portugal, on dit « donner un gâteau », ce qui peut consoler en cas de rendez-vous manqué.
David ?
Oui, non. Alors, des fois, le Brésil, c'est pas pareil que le Portugal, quand même. Dar un bol, ça veut dire « donner un gâteau », oui. Je l'ai jamais entendu, mais après, peut-être que oui. Ouais.
Peut-être que personne ne vous a fait faux bon.
C'est vrai.
Merci de ne pas contester. Mais
que de chemin parcouru encore cet après-midi, mon cher Stéphane, parmi toutes ces Maria, les Maria les plus divas de l'histoire, laquelle vous avez préférée, Stéphane?
Écoutez, j'ai beaucoup aimé la Malibran, parce qu'au fond,
c'est celle
qu'on connaît le moins, qui a été ressuscitée, je vous dis, par un très beau disque de Cecilia Bartoli. Et puis, j'ai adoré les caprices de Maria Carré. Le Bubble Boy.
Ça vous a inspiré.
Et le PQ Boy. non, pas du tout, ça ne m'inspire pas. Je préfère tout faire moi-même.
Vous faites tout vous-même?
Oui.
Vous n'avez pas d'assistant?
Bah, pas pour ça, en tout cas.
Oui. Vous en avez juste 17 pour les choses essentielles. Non. Pas de Bubble Boy.
Pour lasser les chaussures, par exemple.
Ah oui, parce que lasser les chaussures, ça sera très pratique. Ça. Oui. Bah, écoutez, en tout cas, on se retrouve demain, même le samedi. On est ouvert, Stéphane.
Mais tout de suite, c'est. Vous le savez, hein? C'est Europe Soir avec Julien Bugier.
Mais lui, le sait-il?
Oui.
Bonsoir Julien.